La diététiste Louise Lambert-Lagacé à propos de la version 2007 du guide alimentaire.
Et moi, j'avais calculé que ce guide-là, si l'adulte suivait les quantités qu'on recommandait, c'était un guide qui fournissait moins de 1500 calories par jour. Si on mangeait tous nos grains entiers, les fruits, les légumes, les produits laitiers, les deux portions de viande ou trois. Donc, on serait resté mince. Mais ça n'a pas été suivi.
Le guide alimentaire a donc une portée limitée, disait-elle dans une présentation devant les rédacteurs et communicateurs de l'agroalimentaire début décembre.
Qu'est-ce que va être la nouvelle version? C'est synthétisé et c'est encore un peu abstrait. Donc, une politique qui va, concernant les recommandations, il va y avoir des messages qui vont être simplifiés avec des images et des trucs. Il va y avoir des solutions intégrées et des applications mobiles. Donc, on va avoir le guide sur notre téléphone, peut-être. Comme je vous dis, ça demeure encore un... Je ne dirais pas un mystère, là, mais ce n'est pas concret. Et pour moi, quelle est la portée du guide? Bon, il y a une forte image. Quand vous parlez du guide alimentaire, tout le monde sait ce que ça pouvait être. C'est un outil qui est bien pensé. Là, on voit qu'il est plus que pensé. Là. C'est crédible, mais c'est une information qui est parmi beaucoup d'autres informations. Puis pour moi, il y a une portée limitée. Limitée.
Bien des facteurs dans la société, et plus spécifiquement le commerce, expliquent les tendances des consommateurs.
Le guide, c'est quelque chose, mais la tendance des consommateurs, c'est autre chose. Et on ne semble pas... dans nos habitudes alimentaires, vraiment suivre, c'est peut-être des fois à notre détriment, là, si je pense au guide 2007 qui aurait pu nous rendre plus en santé. Là, on va voir ce que l'autre guide va nous proposer, mais le consommateur moyen ne semble pas vraiment influencé par le guide.
Sylvie Turgeon, professeure en sciences des aliments et directrice de l'INAF, l'Institut de la nutrition et des aliments fonctionnels, estime que les directives sur l'étiquetage des aliments ne devraient pas insister sur les aspects négatifs. Elle le disait dans une entrevue que je réalisais avec elle en août dernier pour le bulletin des agriculteurs. De bons aliments comme les produits laitiers seraient victimes de désignations négatives.
Des niveaux de contenu, puis ça c'est basé sur un pourcentage de la dose journalière là, qu'on consomme, qui est recommandée de consommer. Puis ça, ben ça peut faire certaines distorsions sur certains aliments par rapport au fait que du lait, par exemple, qui contient naturellement du lactose, ben pourrait se retrouver avec une teneur plus élevée que 15 % malgré qu'il y a des protéines et que ce soit globalement un aliment qu'on considère sain. Mais ça, on ne sait pas, en fait, est-ce qu'il va y avoir des aliments qui vont être exemptés, est-ce qu'il va y avoir des approches particulières sur certaines catégories d'aliments nutritifs. Je pense que c'est considéré, puis on ne sait pas encore exactement comment ça va se concrétiser. Mais effectivement, cette approche-là est orientée sur les nutriments à éviter. Et pour moi, je pense que ce serait intéressant, c'est de ne pas négliger également de faire la promotion de ce qui est positif dans un aliment. Et ça, on va voir comment ça se concrétise, mais effectivement, dans le principe directeur, les variétés d'aliments et de boissons nutritifs est le fondement de la saine nutrition, de la saine alimentation. Donc ça veut dire qu'il y en a des aliments dont on va faire la promotion puis qu'il est bien de consommer, là.
Donc le mur à mur est un peu dangereux, là.
Il est toujours difficile de faire du mur à mur en alimentation parce qu'après, il faut donner, surtout dans ce cas-là, ça se destine à une population très large. Il faut vraiment donner des grands principes, mais après ça, laisser de la latitude. Parce que par la suite, je pense que les personnes qui ont des problèmes particuliers qui nécessitent du soutien en termes de nutrition, ben ils vont pouvoir faire appel à des experts qui vont les accompagner. Si on parle de tous ceux qui ont des maladies chroniques ou autres, il y a certainement des directives ou de l'information spécifique pour eux qui va aller au-delà de ce que le guide alimentaire va faire la promotion.
Pire encore, des interdits, des demandes d'abstention de consommer certains aliments, comme voudrait le faire Santé Canada, lui apparaissent dangereux.
C'est un message fort puis qui est très différent, en fait, qui se démarque beaucoup de la démarche précédente, alors qu'on recommandait plutôt de consommer un certain nombre de portions de groupes alimentaires, de catégories de produits, fruits, légumes, etc. Dans ce cas-ci, là, c'est plus général. Là. Donc, on voit variété d'aliments de boissons nutritifs. Puis, le principe directeur numéro 2, les aliments et boissons transformés ou préparés riches en sodium, sucre et lipides saturés nuisent à une saine alimentation. Puis, dans le Santé Canada, en tout cas dans la consultation, parmi les énoncés, on disait le Santé Canada recommande une consommation limitée d'aliments transformés ou préparés riches en sodium, sucre ou lipides saturés. Et une abstention de boissons transformées ou préparées riches en sucre. Ça, le terme abstention, c'est vraiment la première fois qu'on voit ça dans un guide alimentaire. Et dans ça, effectivement, le message est fort dans le sens où ça ne se restreint pas aux boissons gazeuses. On parle boissons aromatisées aux fruits, les jus 100% purs, inclut les jus 100% purs, les eaux aromatisées contenant du sucre ajouté, les boissons énergisantes, les boissons sportives. Puis on dit et autres boissons sucrées, chaudes ou froides, comme les laits aromatisés et boissons d'origine végétale aromatisées. Donc autant du côté du lait au chocolat que d'une boisson d'amande au chocolat, Santé Canada recommande de s'abstenir de consommer ces produits-là. Donc ça, c'est vraiment une première. Comment ça va être perçu du côté des consommateurs? J'ai fouillé un peu, puis je suis tombée sur, entre autres, un dossier qui est public de l'Ordre des diététistes du Québec. Et puis, ce qu'on mentionnait, c'est de faire attention au terme abstention qui pourrait sous-entendre privation, puis ça pourrait avoir l'effet inverse. Donc, le terme abstention, c'est vraiment un terme très fort. On ne sait pas si ça va rester, finalement, parce que est-ce que ça va être pondéré, puis ça va être réduire ou éviter autant que possible, mais le terme abstention est très fort.
Le guide alimentaire a peu de poids. Louise Lambert-Lagacé prend l'exemple des viandes rouges.
C'est pas le guide qui a éloigné les Canadiens de la viande. C'est pas le guide. Parce que les guides, il y avait déjà deux à trois portions de viande ou substituts par jour. Puis les Canadiens en mangent moins. Mais ça fait longtemps que la viande rouge, les gras saturés, c'est quand même devenu un aliment qui est moins considéré dans l'échelle des aliments santé. Mais c'est pas le guide qui a fait ça. En tout cas, pour moi, c'est la valeur du guide n'a pas tellement d'influence. C'est ce que j'essayais de voir avec les tendances.
Et le guide alimentaire que Santé Canada veut baser sur la science semble un peu à contrario avec les avancées des recherches.
Des gras saturés, c'est loin d'être conclu dans la recherche. Et est-ce qu'on pourrait faire une différence entre gras saturés qui viennent des plantes et gras saturés d'origine animale? La question des diètes faibles en gras, bien, on sait que ça a été un échec. Alors, dans le fond, on a voulu diminuer les calories et le gras, puis finalement, les gens se sont lancés dans d'autres choses et ça n'a pas donné.
Plutôt que de durcir le ton, le guide alimentaire devrait peut-être plus l'adoucir, montrer de la souplesse.
En fait, il y aurait juste peut-être quelques mots à changer dans, surtout d'origine végétale, je veux dire, si on disait des protéines à la fois d'origine animale et végétale, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des protéines dans le menu. On dit fruits et légumes et menu suffisamment riche en protéines. Moi, je pense qu'il faudrait que la France soit un peu différente. Mais si on regarde, j'ai fait la comparaison de quelques guides alimentaires, c'est-à-dire les grandes consignes de l'OMS. L'OMS met l'accent sur les protéines végétales. Mais lui, bien entendu, l'OMS pense au tiers-monde, et au tiers-monde, il y a moins de protéines d'origine animale. Le Canada dit surtout des protéines d'origine végétale. Les États-Unis ne sont pas là du tout. Les États-Unis sont dans toutes les protéines. Alors, il les nomme exactement toute la liste des protéines. Si on regarde le régime méditerranéen, bien, les légumineuses, les fruits et légumes sont en vedette. Donc, les protéines d'origine végétale sont beaucoup plus importantes dans la diète méditerranéenne. Dans le Brésil, bien, le Brésil ne parle pas des protéines comme telles. C'est vraiment le Brésil, c'est manger frais et manger moins transformé. Mais le Brésil a des problèmes de santé, d'obésité, de diabète. J'ai bien hâte de voir si le guide va leur redonner la santé, parce qu'il y a du travail à faire.
Devrait-on imiter le guide alimentaire brésilien?
C'est plutôt une attaque assez forte sur les aliments transformés. Puis ils mettent même des aliments comme le fromage, le pain, dans des aliments transformés. Ça, c'est les Brésiliens, là. Mais c'est pas les ultra-transformés. Les ultra-transformés, c'est quand on ne connaît plus l'aliment, mais ça a été enrichi de vitamines, de minéraux, là. Comme les boissons gazeuses, les grignotines. Et ils mettent les repas congelés dans ça. Ça, c'est les Brésiliens, ça.
Pour Sylvie Turgeon, directrice de l'INAF, qui travaille quotidiennement avec des nutritionnistes, établir une liste noire d'aliments qualifiés de mauvais est dangereux. Elle prend l'exemple particulièrement des fromages.
Bien, c'est un peu l'effet qu'a d'avoir un étiquetage sur les éléments qui sont négatifs sans penser à ce qu'il pourrait avoir de positif dans l'aliment. Ce qui est à souhaiter, c'est que justement, c'est-à-dire que d'avoir une consommation limitée d'aliments transformés, ça veut pas dire, puis qui sont riches en sodium, sucre et lipides, ça veut pas dire qu'il faut complètement les évacuer de notre alimentation. Il faut le faire avec prudence, c'est-à-dire avec un nombre limité. Ceci dit, sur l'effet santé de produits riches en matières grasses comme le fromage, il y a encore beaucoup de recherches qui se font à travers le monde, et puis au fil des années, on verra si c'est vraiment associé à des problèmes, par exemple, cardiovasculaires ou autres. On commence à avoir des informations qui nous montrent que non, au niveau de la santé. Par contre, lorsqu'on parle d'apport calorique global, bien, c'est sûr que lorsqu'on consomme un aliment riche en gras, ça y contribue. Mais comme je vous le disais tantôt, la recherche en nutrition évolue constamment. Il y a 30 ans, quand on a décidé d'éviter le beurre pour consommer de la margarine, bien, on a vu 25 ans plus tard bien, que, dépendamment de que les procédés qu'on a mis en place pour maintenant produire cette margarine avaient un effet plus néfaste que la consommation du beurre, par exemple. Donc, le défi, lorsqu'on parle d'alimentation, c'est que on est encore en train d'accumuler des données puis d'essayer de comprendre à la fois le rôle d'un aliment, mais surtout, de plus en plus, on a besoin d'informations puis de compléter l'information sur les alimentations plus globales, les diètes, là. Donc, effectivement, est-ce que demain matin, suite à ça, tout le monde va basculer vers la consommation de produits de fromage réduits en matière grasse ou carrément va l'éliminer de son menu? Ça serait quand même dommage par rapport à une industrie, si on parle au Québec, par exemple, de petits fromagers puis de fromages distinctifs qui est en croissance puis qui a une belle qui se positionne avantageusement. Je pense que à travers ça, il y a des principes de précaution, puis après, ben il y a la notion de variété d'aliments et de boissons nutritives. Ça reste que à travers ça, ben il y a une notion de plaisir puis de capacité à avoir une alimentation variée puis qui nous satisfait. Puis à travers ça, il y a le plaisir de manger également.
Et le mot de la fin, je le laisse à Isabelle Marquis, nutritionniste et consultante en marketing alimentaire. Les protéines animales sont complètes. Il n'y a que 3 végétaux qui offrent la même chose. Isabelle Marquis parlait au Port Chaud début décembre 2018.
Les protéines animales, c'est ce qu'on appelle des protéines complètes. Donc, elles contiennent systématiquement les fameux 9 acides aminés essentiels. Même si le reste de la combinaison est différente d'une viande à l'autre, la base, toutes les protéines animales sont dites complètes, alors que les protéines végétales sont dites incomplètes. Encore une fois, parce qu'elles ne contiennent pas tous les 9. Elles peuvent en contenir certains, mais pas la série au complet. Par contre, il y a 3 exceptions dans le règne végétal, et c'est entre autres pour ça que vous voyez autant de produits végétaux qui contiennent ces ingrédients-là. Le soya, le quinoa et le sarrasin sont 3 exceptions de la nature qui sont considérées comme étant des protéines complètes. Donc, elles viennent brouiller les cartes.
Ici Lionel Levac. Finalement, la version de 2007 du Guide alimentaire canadien était peut-être tout compte fait la meilleure. En maintenant des groupes d'aliments dans lesquels les Canadiens pouvaient trouver l'équilibre alimentaire et en faisant quelques mises à jour et quelques mises en garde, on aurait maintenu un outil utile. La nouvelle version, pas encore officiellement dévoilée, risque plutôt de compliquer beaucoup les choses. Mais finalement, ce n'est peut-être pas si grave puisque le marketing alimentaire a, à l'évidence, beaucoup plus de poids que le guide gouvernemental. Au revoir.